Berger Oriental. J'ai réduit totalement cette
équipe. Moi, c'est l'une de combattir au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange citoyen dans Parole aux auditeurs. Dans un point de presse tenu la semaine dernière en Ouganda, où il était en visite officielle, le chef de l'État, Joseph Kabila, a annoncé la tenue des élections après l'opération d'enrôlement des électeurs. Certains observateurs estiment que Joseph Kabila, à part cette annonce, affirmait les prérogatives dévolues à sa fonction de garant des bons fonctionnements des institutions du pays. Une autre opinion pense plutôt qu'une telle annonce ne pouvait être faite que par la Commission électorale nationale indépendante CENI, c'est l'organe habilité à annoncer les dates de la tenue des élections. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour vos interventions en direct. Mais les débats, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Hippolyte Kapanga est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elamegi a le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Sebujango et fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiotapis.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Sergio Tumutala qui nous écrit de Mbujima, il dit ceci, il n'y a pas de différence si cette annonce est faite par le président de la République ou par les présidents de la CENI, parce que tout le monde sait qu'on ne peut tenir les élections qu'après les opérations de la révision du fichier électoral. Alors, pour lui, il n'y a pas un débat. Mais par ailleurs, il y a d'autres compatriotes comme Christian David Mutombo de Kinshasa qui nous a écrit en disant ceci. Alors, cette annonce risque de vider le dialogue de son contenu. Et nous avons associé à cet échange Serge Kadima, qui est l'un des communicateurs de la majorité présidentielle. Serge Kadima, bonjour et bienvenue dans cet échange. Serge, bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci. Merci beaucoup pour cette invitation.
Voilà. Et on a suivi le débat qui a suivi, bien sûr, l'annonce du chef de l'État dans un point de presse, estimant que les scrutins ne peuvent se tenir, en principe, qu'après les opérations de révision du fichier électoral. Et alors, le débat se situe à ce niveau où les gens estiment que non, voilà, parler des questions qui touchent aux élections, cela revient à la Commission nationale électorale nationale indépendante, mais les autres personnes estiment, avec de la majorité présidentielle, par exemple, qui revient au chef de l'État en tant que garant des institutions de pouvoir s'exprimer sur la question électorale. Comment réagissez-vous face à ces différentes prises de position?
Merci beaucoup pour cette opportunité. Je vais tout simplement dire, sinon contredire ceux qui pensent que les questions en rapport avec les élections électorales peuvent être évoquées que par la CENI. Moi, je dis que la Constitution donne les prérogatives à la CENI d'organiser les élections. Mm-hmm. Tout le monde peut en parler. Et je pense que, d'ailleurs, ce sont nos compatriotes de l'opposition qui disent aujourd'hui qu'on doit laisser exclusivement la CENI parler des questions électorales. Si on commence cette question, il vous souviendra qu'il y a 2 ans et demi, la CENI avait publié un calendrier conformément aux prérogatives lui reconnues par la Constitution, celle d'organiser les élections. Et c'est nos compatriotes de l'opposition qui avaient à l'époque récusé les calendriers de la CENI à l'époque, considérant que c'était un calendrier qui venait consacrer les glissements, les termes qui sont à employer à l'époque. Et tous les jours ici, les débats, sinon au moins les 3 dernières années, les débats sur les médias nationaux comme internationaux tournent autour des élections du dialogue. Donc, pour revenir maintenant au propos du président de la République, Joseph Kabila, en Ouganda, le président de la République a dit c'est que la CENI a déjà dit, parce que il vous souviendra dernièrement, le président de la CENI, Corneille Nangaa, il est passé sur TV5, il est passé sur RFI, il est passé même sur Radio Capi, qui est suivi à travers le monde, où il a dit que la CENI a besoin de 16 mois plus un jour pour enrôler les électeurs. Alors, comment on peut aujourd'hui prétendre parler d'un calendrier électoral sans définir l'enrôlement des électeurs. Parce qu'aujourd'hui, les élections, c'est quoi? Il faut qu'il y ait les électeurs, il faut être éligible, et puis il faut être en mesure d'aller aussi voter. C'est comme ça que le président de la République s'est trouvé en dehors du pays, face aux journalistes qui ne sont même pas congolais, qui ne sont pas censés connaître ce que le président Corneille avait dit au pays, qui est connu de tous les Congolais. Devant cette réalité, les journalistes étrangers au Burundi l'ont tendu le micro et lui ont posé la question sur le procès électoral en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une question tabou, parce que partout, partout, tout le monde sait qu'en République démocratique du Congo, l'année 2016, c'est une année électorale et le procès électoral avait déjà commencé. Le président de la République, en tant que garant de la nation, en tant que le premier d'entre nous, il a répondu en disant que chez moi au pays, on a déjà commencé les procès d'enrôlement et après les procès d'enrôlement, il y aura des élections. Je ne vois pas ce qui fâche ou ce qui contredit l'exercice normal de la CNI.
De la CNI.
Je pense que nos compatriotes de l'opposition sont en train de vouloir inventer les débats ou de créer un débat là où il n'y en a pas.
Mais alors, pour ceux qui estiment que ces matières, les grandes options politiques, par exemple, en termes d'organisation des élections, quand est-ce qu'on pourra voir les calendriers, quelles sont les élections à privilégier, avec tout ce qu'il y a comme attraction autour du dialogue, les uns estiment qu'en disant cela, déjà, ça risque de jeter le froid pour les autres, pour dire, nous voilà, le chef de l'État le dit déjà, autant de jours qu'il apprendra la révision du fichier électoral, on aura les élections après, dès lors que les gens estimaient qu'il faille dialoguer pour qu'on lève les grandes options. Est-ce que cela ne peut pas, en d'autres termes, vider effectivement la matière qui peut être encore discutée au niveau du dialogue qui est tant attendu?
Non. Je pense qu'au niveau du dialogue, nous allons parler des détails. Au niveau du dialogue, on va faire venir les experts, que ce soit nationaux ou internationaux, pour qu'on nous dise exactement, conformément aux petits dérapages, aux petits glissements qu'on a eu jusque-là, parce qu'on était censé, en principe, à toujours avoir un calendrier. Mais il s'est fait, c'est une réalité, nous devons le dire. La CENI a publié des calendriers, et des calendriers ont été récusés. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas un calendrier consensuel. C'est vrai que l'idéal aurait été qu'on organise des élections au plus tard, au mois de novembre 2016. Alors, parce que nous sommes devant cette réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne suffit pas d'être dans la majorité présidentielle et dire que nous voulons que l'on organise des élections, par exemple, au 19 décembre, par exemple, le 19 octobre 2016. Ou bien il ne suffit pas seulement d'être dans l'opposition pour dire que nous voulons qu'on organise des élections au plus tôt, c'est-à-dire peut-être au mois de mars 2017. Non, il n'y a pas un camp qui a les monopoles ou bien qui a les pouvoirs constitutionnels de dicter à la CENI ce que la CENI doit faire. C'est comme ça que le président Corneille Nangaa lui-même avait dit, au-delà du procès électoral, au-delà du processus d'enrôlement pour lequel il demandait 16 mois plus un jour, il a sollicité de la part des acteurs politiques de laisser une option pour qu'ensemble nous puissions constater les contraintes, les difficultés, les opportunités qui s'offriront à nous si jamais on réfléchissait bien, si jamais on se disait des vérités autour du dialogue, pour voir qu'est-ce qui peut être acceptable. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui avoir l'adhésion de toutes les couches sociopolitiques pour éviter d'avoir des violences dans notre pays et pour avoir un procès électoral apaisé, ce que nous disons. Et aujourd'hui, tous nous sommes d'accord qu'il faut dialoguer. D'ailleurs, la question du dialogue, c'est une question qui avait été sollicitée, sinon soulevée pour la première fois par nos compatriotes de l'opposition, en commençant par l'opposition radicale. Je fais allusion au président de l'UDPS, M. Tshisekedi Omulumba. Et il avait été suivi par M. Vital Kamerhe. À l'époque, il avait compris qu'au regard des violences de 2011, il fallait absolument nous mettre autour d'une table pour qu'ensemble nous puissions vider toutes les poches qui peuvent nous créer des problèmes autour du procès électoral. Et nous avons tous adhéré à travers les consultations qui avaient été initiées par le président Joseph Kabila. Il a consulté tout le monde et tout le monde avait dit nous devons aller au dialogue. C'est comme ça qu'il faut un dialogue pour que des questions générales soient levées au niveau du dialogue, mais des questions techniques, il n'y a que la CENI et les experts. Souvenez-vous, il y a eu un rapport de l'OIF, et d'ailleurs, c'était sur demande de nos compatriotes de l'opposition, qui, ces rapports, demandent à ce qu'on procède d'abord au toilettage du fichier électoral. Il faut qu'on puisse reconfigurer les corps électoraux. Si aujourd'hui, on veut organiser des élections dans l'état des choses actuelles, c'est-à-dire avec le fichier électoral actuel, je vous dis, je vais m'en couper sans crainte d'être contredit sur ce plateau, qu'il y aura des problèmes après l'organisation de l'élection.
On va revenir à vous, on ne sera pas vidé toute la matière en début d'émission. Certainement, on vous garde en ligne. Il y a des compatriotes qui sont nombreux qui sollicitent la parole pour cet échange. Kevin, vous êtes avec nous de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Bonjour, Kevin.
Bonjour à tous
les auditeurs. Et sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, vous avez dit quand on ne veut plus de son chien, on l'accuse toujours des rages. Pour vous, vous estimez que le chef de l'État est libre de pouvoir estimer aussi ses opinions autour de cette question politique qui touche aux élections. C'est votre réaction sur la page Facebook des paroles aux auditeurs?
Certainement. C'est-à-dire que moi, je pense que les opposants commencent un tout petit peu à taper à côté. C'est comme si on manque de sujets à commenter. C'est comme si il n'y a plus une bonne actualité politique à commenter. C'est pourquoi ils cherchent à prendre le président de la République dans le monde. C'est comme si on est en train de priver M. Joseph Kabila, qui est d'abord le président de la République et il est aussi le premier citoyen du pays. Il a ce droit-là de s'exprimer. Il y a seulement un jour que l'opposition s'élève lorsque M. Kabila dira que je vais aller en vacances en Europe et qu'il dise que non, il est en train de gaspiller de l'argent. C'est comme si ça me rend quelqu'un dans le cadre de ses droits. C'est un homme, c'est le président de la République, c'est le premier citoyen en tant que parent de la nation, en tant que quelqu'un qui joue le rôle de la surveillance du bon fonctionnement des institutions. Il a ce pouvoir-là, il a ce droit-là d'intervenir sur toute question concernant toutes les institutions du pays. Ce n'est pas un péché. Ça, ce n'est pas un péché. Et alors, je dirais aussi que à chaque fois que j'interviens à Radio Kabi pour des questions liées aux élections, je ne cesse de dire que toute la classe politique est responsable de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Si la majorité présidentielle a péché pour n'avoir pas donné des moyens à la CENI pour pouvoir organiser des élections dans les délais, on doit aussi reconnaître le péché de l'opposition pour n'avoir pas reconnaître que nous sommes devant un fait accompli, qui fait que les délais constitutionnels ne soient pas respectés, qui fait qu'on puisse essayer de déroger la constitution pour qu'on puisse sauver l'avenir de ce pays, pour sauver la démocratie de notre pays. Certes, votre problème, c'est la personne de Kabila, parce que lui-même, il constitue le problème. Si je m'inspire de la recommandation des experts de groupe d'études sur les Congo, c'est-à-dire le GSI, le président Kabila doit normalement s'y prononcer. Les groupes d'experts ont proposé que le président Kabila puisse se prononcer en disant que je ne me présenterai plus comme candidat aux prochaines élections. C'est quelque chose d'important.
Oui. Mais alors, Sabine, vous avez dit deux choses. La première, vous estimez qu'il est normal pour le chef de l'État de pouvoir s'exprimer en tant que citoyen. Mais il y en a qui pensent que ce que le chef de l'État dit engage la nation et que, par exemple, une déclaration autour des élections peut avoir toute autre interprétation, mais aussi des conséquences par rapport à la configuration actuelle de la situation politique, Kevin.
Par rapport à la question de la qualité politique, tout est lié aux élections. Tout est lié aux élections, ça veut dire que nous sommes en train de voir de quelle manière on peut organiser des élections en évitant des fusions de sang. Et de cette façon-là, la CENI nous a proposé les 16 mois pour qu'il y ait enrôlement. Alors, qui ne connaît pas que les élections n'auront lieu qu'après enrôlement? Est-ce qu'on peut avoir des élections après enrôlement? Vous voyez? Alors, moi, je peux ajouter en citant que aujourd'hui, l'opposition est en train d'envenimer encore la situation en tenant des discours tels que le peuple doit prendre son destin en main. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons une transition de pouvoir sans décision des gens. Mais tels discours ne nous engagent pas.
Voilà, merci beaucoup, Kevin. Mais pour revenir, il y a quand même un élément que vous avez ajouté en souhaitant que les chefs de l'État, c'est ce que vous avez dit, puissent s'exprimer clairement autour de cette question de passation pacifique du pouvoir. Merci beaucoup, Kevin. Trésor, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, c'est Maître Licoza.
Et vous avez dit, vous, sur la page Facebook, que, bon, moi, à sa place, j'aurais dit la même chose. Mais pensez-vous, comme d'autres compatriotes sur la page Facebook, qui estiment que non, chaque mot qui sort de la bouche du président de la République peut être interprété, et parce que cela a de l'influence sur les événements politiques au pays, Maître Trésor?
Bien, je félicite d'abord le président de la République d'avoir honoré notre pays à l'étranger. puisqu'il ne pouvait pas garder son silence devant les journalistes d'un État étranger. Et surtout, il se trouvait dans cet État-là. Et donc là, je trouve que le président Lafuite a fait son devoir d'honorer le pays. Et la liberté d'expression n'a pas de frontières. La Constitution ne dit pas qu'on ne peut exprimer son opinion que l'on connaît dans son pays. Même à l'étranger, la liberté d'expression est toujours reconnue à tous les citoyens du monde. On a déjà dit que le président de la République, en dehors d'être président de la République, il est citoyen congolais. Bon, le parti fait fonction, il est le premier des citoyens congolais. Donc, il a exprimé son opinion. Et chaque jour, nous nous exprimons, surtout à travers cette émission, le chef de l'État ne conteste pas cela. Alors, il a donné son opinion par rapport à une question qui lui a été posée. Et j'ai suivi, tout à l'heure, on a parlé, bon, j'ai salué l'invité parce que lui aussi est resté objectif. Hein. Là, je suis d'accord avec lui, il est resté objectif, il a dit des choses de manière assez claire. Et par rapport à la publication du calendrier électoral, on a aussi soulevé que on ne peut pas organiser les élections avant la fin de la révision du fichier électoral. Mm-hmm. Le président de la CENI, quand il a annoncé l'enrôlement, il avait fixé la date du début au 31 juillet. Mais il n'a pas précisé la date de la fin de l'enrôlement. Et le président de la République, dans sa déclaration, dans sa réponse à la question des journalistes, lui aussi n'a pas précisé parce qu'il n'a pas précisé la date. Il s'est réservé comme tout citoyen. Bon, on dit qu'il faut publier le calendrier avant la fin de l'année 2016, et même la communauté internationale aussi sollicite cela. Bon, si on doit quand même dire les choses clairement, si on pose la question à la CENI, qui vous ont fourni les matériels d'enrôlement, on va dire que parmi les fournisseurs, il y a également une entreprise française. La France fait partie de la communauté internationale.
Mm-hmm.
La communauté internationale fournit les matériels pour l'enrôlement. Et la même communauté internationale exige à la CENI de publier un calendrier électoral avant la fin 2016, soi-disant, pour respecter la Constitution. Quiconque qui.
Moi, je pense que mais maître Trésor, quand on parle de la communauté internationale, il faut quand même faire la part des choses. Hein. Des entreprises qui signent des marchés avec la CENI pour livrer des kits électoraux, on ne peut pas dire en termes des communautés internationales, les entreprises signent les contrats quand ils veulent, quand il y a une manifestation d'intérêt. Et à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais je retiens quand même dans ce que vous avez dit, le fait que cela suscite les débats, c'est parce que le président de la CENI a annoncé au 31 juillet le début des opérations de révision du fichier électoral et qu'à la fin, il n'y a pas une date de clôture et vous aussi, le chef de l'État, ne pouvait pas lui avancer pour dire voilà la date pour la tenue des élections, mais c'était un devoir en tant aussi qu'à l'extérieur du pays de pouvoir répondre à cette question de la presse. Merci beaucoup, Trésor. Il y a beaucoup d'auditeurs vraiment qui se bousculent sur la ligne pour cet échange. Alain, vous êtes à Isiro, dans la province de Haute-Uélé. Bonjour Alain.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
On vous écoute Alain.
Oui, moi je dis comme l'ont dit d'ailleurs vos invités, le chef de l'État était en droit de répondre à cette question. Nous savons tous que dans les opérations de l'enrôlement ou les opérations électorales, il y a une sorte de programmation. Toutes les autres activités dépendent du fichier électoral. Étant donné que le fichier électoral est une condition première pour que l'on fasse des projections sur le processus électoral, quoi de plus normal que le chef de l'État puisse conditionner la tenue des élections par rapport à l'élaboration du fichier électoral. Aujourd'hui, la CENI vient de lancer l'opération. C'était depuis le mois passé. Elle a commencé à enrôler les électeurs. Après, nous aurons des statistiques qui vont nous donner la température des élections, c'est-à-dire la configuration ou la cartographie, comment elle va procéder pour publier le calendrier électoral global. Et ainsi, nous aurons un processus qui sera complet. Ce qui est important de mon point de vue, nous ne pouvons pas en faire un débat, d'autant plus que le chef de l'État, en dehors d'être le président de la République, c'est un citoyen congolais, et par surcroît un intellectuel. Il faut aussi faire des projections par rapport à ce qui est dit par la CENI. Je crois que tout ce que le chef de l'État a dit corrobore à 100% avec ce que la CENI a dit. Mais ce que moi je fustige un peu, c'est le fait que aujourd'hui on met plus l'accent sur le calendrier électoral, en oubliant que la CENI a publié un calendrier électoral qui était contesté par la majorité de l'opposition. Et aujourd'hui, si on voudrait que la CENI puisse avoir et puisse publier un calendrier et que ce calendrier ne soit pas consensuel, et bien nous risquons de retomber dans le même erreur que nous avons eu à observer les années passées. Ce qui est important aujourd'hui, le fait aujourd'hui que nous avons tous assisté à ces relancements du processus électoral, nous devons plutôt encourager la CENI à renforcer son équipe, à faire en sorte que nous ayons ces fichiers électoraux qui conditionnent les élections, et après on va programmer les élections en commençant de la base vers le sommet.
Mais alors, c'est là effectivement où se trouve, Alain, je pense que c'est là où se trouve le grand débat aujourd'hui. Alain, si vous, je reviens par exemple là, je vois comment les réactions défilent sur la page Facebook. Patrick Mbouli dit ceci: cette déclaration du chef de l'État viole la Constitution. Lui, en tant que garant du bon fonctionnement et de la paix du pays, devrait tout faire pour obtenir le respect de la Constitution. Alors, quand vous estimez que on ne peut que laisser la CENI organiser la révision du fichier électoral, alors le grand problème aujourd'hui, le débat, c'est de savoir par quel mécanisme on peut se fixer aujourd'hui pour que, quelles que soient les opérations menées par la CENI, quelles que soient les déclarations du chef de l'État et toute autre acte qui peut poser, puisse aller au-delà de prescrit de la Constitution. On en a toujours parlé avec vous de temps en temps dans cette émission. Mais est-ce qu'il revient à un seul camp de pouvoir estimer que on peut aller au-delà quand un autre camp estime qu'on ne peut pas aller au-delà sans qu'on se soit mis d'accord autour d'un dialogue, par exemple?
Bon, ce qui est important de mon point de vue, la Constitution n'a pas qu'une seule valeur, le délai constitutionnel. La Constitution a aussi une autre valeur, qui est l'objectif constitutionnel des élections. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous hasarder à exclure plus de 12 millions de Congolais, tout simplement parce qu'on voudrait respecter un principe mineur, qui est le délai. Ce qui est important, comme vous l'avez dit, étant donné que nous serons en dehors du cadre constitutionnel, c'est qui est important que le Congolais ou la classe politique s'entendent pour que nous ayons des options politiques. Et ce sont ces options politiques qui vont nous permettre à ce que nous puissions asseoir notre processus dans un consensus. Mais si on voudrait qu'on respecte le délai constitutionnel et qu'on exclue plus de 12 millions de Congolais, et bien ce sont des choix politiques que nous avons eu à prendre en 2006, en 2011, mais aujourd'hui, c'est une aberration.
Quand vous dites que le principe mineur qui est le respect des délais entre l'inscription des 12 millions de nouveaux majeurs, comme vous le dites, avec le respect des délais constitutionnels, est-ce qu'on peut parler en termes vraiment des principes mineurs? Est-ce que ce sont les options fondamentales fixées par la Constitution?
Effectivement, les élections n'ont pas été instituées pour respecter les délais, mais plutôt pour mettre fin à la crise de légitimité du pouvoir. Alors, la crise de légitimité du pouvoir est assise, la légitimité du pouvoir est assise sur le principe du grand nombre. C'est-à-dire, on doit faire participer un grand nombre de Congolais au vote pour que cela puisse exercer les caractères légitimes du pouvoir. Mais dès lors qu'on met l'accent sur le délai constitutionnel, qui n'a été ajouté que pour limiter le mandat et non pour résoudre la crise des légitimités, eh bien, nous risquons de replonger encore dans l'illégitimité du pouvoir.
Merci Alain. Merci beaucoup Alain. Félicien, vous êtes avec nous à Kinshasa, 081-893-15 pour ceux qui veulent bien nous joindre en direct. Félicien, bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Je vois sur la page Facebook Lambert Tonsé qui est à Lubumbashi. Il dit, mais on aime bien faire des débats et des polémiques autour des questions, autour des déclarations, et pourtant on a tendance à oublier les questions majeures. Est-ce que c'est ce débat autour de la réponse du chef de l'État dans un point de presse, les élections auront lieu après la révision du fichier électoral? Non, il ne faudrait pas que ce soit dit par lui, par la CENI. Est-ce qu'on peut dire là à un certain moment que dans la plupart des débats, on a tendance souvent à s'écarter de l'essentiel? Et pour vous, ça pouvait être quoi aujourd'hui, Félicien?
Oui, il a raison, celui qui a dit ça, parce que ça c'est une discussion sur le sexe des anges qui nous perd du temps inutilement. Et moi, je pense pas que le président de la République ait appris son avion et allé à Nouganda parce qu'il va aller faire un discours sur les élections. Mais il a répondu à une question d'un journaliste. Et quand un journaliste pose une question, il ne vous dit pas c'est quoi il va vous poser la question. Et vous répondez promptement. Et là, il a répondu comme tout le monde pouvait répondre, parce qu'il a dit c'est que nous connaissons déjà ici au pays. Et la CENI avait déjà dit qu'il a, il doit avoir soit 16 mois ou 18 mois pour terminer l'enrôlement, tout ça. Et il n'a jamais dit ça, c'est exactement quand ça va se terminer. Ça, c'est ce qu'il a dit. Nous sommes rassurés qu'il va dire encore qu'il n'a pas eu de temps, il n'a pas eu suffisamment de ceci, de cela. Et il peut même faire 5 ans si on les laisse faire. Mais moi, je pense que. Aujourd'hui, ce qui devrait intéresser la classe politique, c'est justement cette CENI-là. Cette CENI-là, elle est dirigée par la société civile. Depuis qu'elle est créée, on a commencé par la CI, qui est devenue maintenant CENI, c'est dirigé par la société civile. La classe politique devrait se poser la question si réellement il existe une société civile, la politique dans ce pays, pour qu'on puisse nous confier une institution d'appui à la démocratie qui devrait jouer un grand rôle, qui devait être neutre, qui devait être l'église au milieu du village. Et pour qu'on ne puisse pas dire qu'il joue le jeu de la majorité ou le jeu de l'opposition. Mais qu'est-ce qui arrive depuis avec cette CENI-là? Quel est le rôle que la CENI joue? C'est pour cela que les gens devaient se presser d'aller au dialogue pour trouver une solution. Et peut-être, ne plus parler de cette histoire-là, de CENI, de cette composition, de cette CENI-là, on trouvait une formule pour que les élections qu'on attend, et qui devraient être transparentes, démocratiques, libres, tout ça, et que ça se passe comme on le veut. Mais tant qu'on restera avec cette institution et dirigée par la société civile qui n'a jamais prouvé qu'elle était apolitique, on a senti le mal que la société civile a fait à la nation, alors qu'on devrait avoir aujourd'hui comme courant la majorité, l'opposition et les centristes, parce qu'au moins les centristes, et ils font la politique, ils sont au centre, ils savent réconcilier les deux camps, au lieu d'aller parler d'une société civile qui n'est pas politique en réalité, qui est achetée facilement, comme on le voit depuis des décennies. Moi, je crois pas que c'est là les temps faits. On a fondé
Félicien,
pas pour perdre le temps, mais qu'on a mis à les temps faits, c'est les dialogues.
Mm-hmm.
Et si on avait déjà fait les dialogues, tout ceci n'arriverait pas. Parce qu'on aurait déjà trouvé des solutions là dans les dialogues à tous les problèmes. Et un compromis politique devait résoudre les problèmes dans l'ensemble.
Mm-hmm.
C'est ça qui est plus important.
Mais si on peut revenir, parce que vous avez évoqué l'indépendance de la CENI, vous estimez que c'est la matière qui devait être quand même considérée comme une urgence pour le débat. Mais rappelons quand même que la CENI, son pouvoir vient aussi du fait qu'elle est financée par le gouvernement. Dans l'état échéant, la CENI n'a pas pu obtenir du gouvernement les moyens nécessaires qui pouvaient lui permettre de jouer son rôle, d'organiser toutes ces élections dans les délais impartis par la Constitution. Là, il y a quand même une question des responsabilités des uns et des autres, Félicien.
Oui, mais la CENI devrait répondre devant la nation réunie au dialogue. Comment elle a fonctionné jusque-là? Qu'est-ce qui a empêché pour qu'elle puisse faire son travail? C'est devant le peuple qu'elle devait répondre. Et si réellement le gouvernement n'a pas donné les moyens, mais le travail que la CENI fait, vous sentez que. Et ce n'est pas un travail qui devrait aider la République. C'est pas la CENI n'est pas au centre, la CENI n'est pas neutre, la CENI n'est pas indépendante. Alors qu'on commence pas à aller chercher des solutions ailleurs, la solution c'est cette institution qui a été créée, qui devrait être indépendante et qui devrait aider la République à aller de l'avant.
Merci.
Alors qu'on ne parle pas parce que le président de la République a dit ceci, le président de la République a dit cela, le président de la République n'a répondu que n'a donné que ce que moi je pouvais dire, ce que toi tu pouvais dire, ce que tout comme le connaît, ce que la CENI a dit.
Merci Félicien, 081-890-6315. Appelez-nous pour intervenir en direct et nous allons aussi poursuivre le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Dans quelques secondes, on accorde la parole à notre invité.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, Parole d'enfant, rencontre avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Voilà, nous revenons à vous, Serge Kalima. Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre commentaire par rapport à tout ce qui a été dit par les auditeurs?
Important. Le premier, c'est l'unanimité autour du fait que c'était normal pour le président de la République, chef de l'État et garant de nos institutions, qui s'est retrouvé en dehors du sol congolais, puisse répondre aux questions des journalistes étrangers, qui du reste, d'ailleurs, la question a été posée en anglais, qui du reste ne connaissent même pas la réalité du Congo, c'était normal que le président de la République fasse quand même les points sur la situation de son pays, donc du pays auquel nous appartenons tous, et lui, les premiers d'entre nous. Ça, c'est les points communs que j'ai pu relever. Il y a mon compatriote Kevin, qui veut que le président de la République, d'abord avant qu'il le mette en jeu, il a dit que la responsabilité politique était partagée, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis de la majorité, je reconnais que la majorité, évidemment, n'a pas géré de manière parfaite, parce que c'était une gestion, c'est nous qui sommes aujourd'hui au pouvoir. Une gestion elle-même a quand même quelques marges d'erreur, c'est normal. Sous ce point de vue-là, on peut nous reprocher et nous pensons qu'il n'est jamais trop tard pour mieux réparer. C'est de la gestion elle-même, il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais la responsabilité, elle est partagée, oui, par l'opposition qui, également, n'a pas joué son rôle, le véritable rôle d'un contrepoids du pouvoir du régime. Et pour ce qui concerne les élections, l'opposition n'a pas permis à la CENI de faire son travail comme la Constitution reconnaît cela à la CENI. Comment ça? La CENI est un organe technique indépendant habilité à organiser les élections. Mais nos compatriotes de l'opposition n'ont pas permis à la CENI d'évoluer normalement conformément à la mission lui confiée par la Constitution. Lorsque un groupe des individus qui se retrouve dans une plateforme qu'on appelle de l'opposition, qui se retrouve dans un coin de l'opposition, n'arrive pas, sinon arrive à réutiliser un calendrier qui est fait publié par les techniciens constitutionnels, donc qui est la CENI. Donc ils n'ont pas facilité la tâche. Je peux vous rappeler que le dernier calendrier que la CENI avait publié prévoyait déjà les élections présidentielles au mois de novembre 2016. Mais ce calendrier a été récusé, rejeté, avec les humiliations, selon l'humiliation qui existe au monde. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un calendrier consensuel sur base desquels, aujourd'hui, la même opposition peut prétendre dire que si on organise pas les élections en 2016, il y aura ceux qui promettent par souci de santé mentale de vos téléspectateurs du séminaire Sans le Monde. Je ne sais pas répéter les mots que l'opposition utilise. Donc, vous voyez maintenant que c'est de la mauvaise foi. Bref, c'est comme ça que la CENI dit. Étant donné les retards enregistrés, liés évidemment aux faiblesses des uns et des autres, il faut 16 mois plus un jour pour enrôler, pour constituer les corps électoraux. Et je pense que c'est à ce moment-là, comme l'a dit la plupart des intervenants, c'est après avoir constitué les corps électoraux qu'on va convoquer maintenant les élections. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous avions souhaité tous qu'on organise les élections après 5 ans, c'est-à-dire au mois de novembre 2016. Et maintenant, ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai beaucoup aimé l'intelligence de, je crois bien, Maître Alain, je crois bien M. Alain, qui dit, face aux réalités constitutionnelles qui voudraient qu'on organise les élections dans 5 ans, et on regarde aussi de l'autre côté 10 millions de nouveaux majeurs, qui, si on organisait les élections d'ici le mois de novembre, ou bien d'ici le mois de septembre, comme le veulent notre compatriote, on va se retrouver face à une situation telle que les 10 millions de Congolais, qu'on appelle les nouveaux majeurs, peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour invalider les élections, parce que la Constitution, qui prévoit que le mandat est de 5 ans renouvelable, dispose aussi que tout Congolais qui a 18 ans révolu a les droits de vote. C'est un droit constitutionnel. Qu'est-ce qu'on veut? N'est-ce pas on peut accepter un petit débordement, un petit dépassement d'un mois, de deux mois, de 10 mois,
mais pourvu qu'on organise des bonnes élections qui ne seront pas contestées.
Mais on peut revenir quand même à cette question de nouveaux majeurs, des respects des délais. Disons quand même que la majorité, vous l'avez dit, vous êtes aux commandes, vous aviez tout le temps, si possible, tout en sachant qu'on devait avoir des délais à respecter en 2016. On pouvait convoquer la révision du fichier électoral, le nouveau majeur en 2012, en 2013, on avait tout le temps. Le problème aujourd'hui, c'est évoquer les questions des moyens qui n'ont pas été mis à la disposition de la CENI, alors que nous sommes déjà à la période même où on se justifie déjà les délais. N'est-ce pas là qu'il y a quand même une grande responsabilité du gouvernement qui devait financer les élections en temps pour éviter qu'on soit dans tous ces débats autour des glissements, de respect des calendriers?
Non, là il y a un petit problème que je dois corriger avant qu'on puisse continuer. Quand je dis que c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est-à-dire on gère le gouvernement, non, on ne gère pas la CENI. La CENI est un organe indépendant technique, et le président de la République, Norman Ouganda, l'a dit. Il a dit qu'il n'appartient pas au président de la République, ni au gouvernement congolais d'organiser les élections. C'est à la CENI d'organiser les élections. Ici, par rapport à l'enrôlement des nouveaux majeurs, je me rappelle pas un seul instant où j'ai vu la CENI ou les animateurs de la CENI solliciter les moyens pour enrôler les nouveaux majeurs. Mais au moins, je sais plus ou moins qu'il y a eu la loi électorale qui avait, en fait, qui n'a pas eu l'adhésion totale de nos compatriotes de l'opposition. Si la loi électorale que votre gouvernement avait proposée au niveau du Parlement au mois de janvier 2015 était passée telle qu'elle est proposée, c'est là où il y a la responsabilité du gouvernement. La responsabilité du gouvernement avait bien compris. C'est comme ça que dans la loi électorale de 2000, qu'on a proposée à l'Assemblée nationale et au Sénat au mois de janvier 2015, on avait tout prévu. Mais ce sont nos compatriotes de l'opposition qui crient aujourd'hui jour et nuit, qui avaient boycotté, rejeté, appelé même les gens dans la rue. Alors, nous disons, comme le président l'a toujours dit, que la majorité dans sa conception, ce n'est pas seulement détenir la minorité. Nous avons reculé, on a dit ok, on fait la volonté de nos compatriotes. Mais il y a certains articles qu'on a élagués, et aujourd'hui ça nous rattrape. Le gouvernement a déjà pris ses responsabilités. C'est comme ça que aujourd'hui, l'idée de dialogue s'impose. Moi, quand je parle des responsabilités, c'est par rapport aux faits et gestes, par rapport aux actes qu'on pose, qui n'ont pas facilité les bons processus par la CENI. C'est comme ça que nous disons. Il n'y a que les dialogues qui peuvent nous permettre, nous, à la majorité, de reprocher à l'opposition tel ou tel acte qui n'était pas bon, qui était mauvais, qui nous a mis dans cette situation. L'opposition également va nous reprocher. L'aspect civil également aura un mot à dire.
Et au milieu, on va trouver
une option qui ne fera pas du mal aux uns et aux autres, mais qui va nous permettre de sauver la nation, étant donné que nous avons en commun la nation, la patrie.
Voilà, mais écoutons d'abord, je crois que c'est Adrien qui est à Kananga. C'est Adrien, maître Adrien, vous êtes avec nous?
Oui, Pierrot, je suis avec vous.
Voilà, on vous écoute rapidement, parce que pour le reste des auditeurs, on aura besoin d'avoir ne plus que deux minutes d'intervention, vu le nombre d'appels que nous avons au niveau de notre standard. Adrien, on vous écoute.
Oui, merci, Pierrot. Je pense que c'est vrai que le débat est sur le discours du chef de l'État. Avant tout, lorsque nous prenons l'article 69 de la Constitution, parce que c'est vraiment dommage d'entendre M. Kadima de la majorité qui ne veut pas que les gens puissent parler du respect constitutionnel. C'est là que nous nous demandons, mais où est-ce que la majorité veut nous ramener avec ce pays? Lorsque nous avons l'article 69, on reconnaît le chef de l'État en tant que le chef suprême et on lui donne une autre injonction. Il doit veiller au respect de la Constitution. Donc, contrairement à ce que M. Kadima Serge a dit et les autres compatriotes, quels que soient les journalistes qui avaient posé cette question, le chef de l'État, peut-être moi ou n'importe qui répondait de cette manière, mais le chef de l'État, en tant que le garant du respect, ne devrait pas répondre, il devrait s'abstenir pour dire qu'il y a un organe chargé pour ça. Aujourd'hui, Pierrot, c'est qu'on disait toujours que la CENI faisait le jeu du pouvoir et ça sort donc à nu. Parce que comment expliquer? Lorsque nous lisons les compétences reconnues au chef de l'État, les compétences reconnues à la CENI, nulle part on reconnaît au chef de l'État de faire ce qu'il a dit. Là, c'est de 1. Pourquoi la CENI et rester aussi silencieuse pour ne pas rebondir, pour dire que non, voilà, le chef a dit ce qu'il a dit, et surtout que la CENI, il ne faut pas que les gens puissent confondre, la CENI ce n'est pas une institution de la République, mais c'est une institution d'appui à la démocratie. Donc si c'était à la place du gouvernement, à la place du Parlement, le chef de l'État qui avait intervenu, à ce moment-là, on pouvait donc lui donner raison. Deuxièmement, lorsque nous revenons maintenant sur les délais, aujourd'hui on dit qu'il faut attendre l'enrôlement pour publier maintenant le calendrier. Mais qu'est-ce qu'on nous dit du délai constitutionnel qui fixe bien à 5 ans le mandat? Quel sera le sort de cette constitution? Est-ce que la constitution ne sera plus là pour produire des faits ou sera un autre document? Doit remplacer cette constitution, là ce sont des questions. Troisièmement, lorsque la majorité présidentielle, au jour d'aujourd'hui, met l'échec, son échec, partager cet échec avec l'opposition, moi je dis que c'est vraiment faux. Et aujourd'hui, M. Kadima doit se rappeler, avant les élections de 2011, en 2010, l'opposition avait demandé pour qu'on puisse d'abord s'asseoir autour d'une table pour taper sur la question de la révision donc, d'un article qui ramenait le détour à un tour. La majorité avait refusé. Et là, on n'avait pas dit que non, nous n'allons pas organiser les élections parce que l'opposition a fait ceci. Au jour d'aujourd'hui, c'est la majorité qui dirige le pouvoir, donc le pays. La majorité n'associe pas l'opposition pour aujourd'hui dire que non, parce que l'opposition avait contesté et c'est comme ça que nous aussi nous avions refusé. Non, il appartenait à la majorité de financer la CENI. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Maintenant, lorsqu'on fait associer les autres, ce n'est pas du tout correct et c'est là que nous nous disons que la majorité, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de constituer une dangereuse jurisprudence dans ce pays. Parce qu'ils ne pensent pas qu'ils seront éternels. Il y a les autres qui viendront aussi aux affaires. Ils vont rappeler que voilà, à votre époque, voilà ce que vous aviez érigé en règle comme mode de conduite. Pour finir, Pierrot, c'est quand même étonnant. Au jour d'aujourd'hui, lorsque j'entends la majorité en train de tâtonner à gauche, à droite, donc le nouveau majeur, ainsi de suite. Mais la majorité a oublié qu'elle et sa CENI avaient déjà lancé donc, l'offre auprès des Congolais. Il y a les gens qui avaient déjà déposé leur dossier. Comment les élections provinciales allaient se tenir avec cette condition? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne connaissent même plus le sens où se trouverait leur argent.
L'argent versé. Je crois, vous avez évoqué tous les éléments majeurs pour vous, Adrien, en estimant que le chef de l'État, en tant que garant, il veille au respect de la Constitution et il ne s'essayerait pas produit et prononcer autour de cette question parce que c'est une question politique. Lui, en tant qu'institution publique, si ça pouvait être dit, comme ça a été dit par la CENI, c'est un fait, mais être dit par le président de la République, ça crée débat autour des intentions et des autres pour le respect de la Constitution. Et vous avez chargé la majorité en termes de l'échec qui est, la majorité ne peut pas faire allusion à l'opposition dans l'échec, s'il faudrait les dire ainsi, de non-respect des délais constitutionnels aujourd'hui. Et pour vous, cela est une jurisprudence dangereuse pour ceux qui vont venir le lendemain, qui pourront aussi refuser de respecter les délais constitutionnels en estimant que ça a été déjà fait et dans les temps. Merci beaucoup. On reste ici, on retourne ici à Kinshasa avec Omar qui est avec nous. Bonjour Omar.
Bonjour Pierre Lamège, bonjour à l'invité.
On vous écoute Omar.
Bonjour. Bonjour Monsieur Pierrot pour la parole pour vous m'accorder. Pour coordonner le ministère de mon intervention, je voudrais dire que les questions politiques doivent être traitées avec conscience et responsabilité, et non avec émotion et passion. Nous l'avons démontré à la fois passée que l'opposition avait une grande responsabilité dans le territoire, mais les responsabilités sont partagées. Il faudra que M. Kadima sache aussi que la majorité a une grande part de responsabilité. Et je l'ai toujours dit, les mandats politiques n'aiment pas un mandat d'explication, c'est un mandat d'action. Et lorsqu'on a échoué, soit on démissionne, soit on reconnaît sa faute et on est fait un effort de changer. Aujourd'hui, on parle du retard, de ceci, de cela. C'est vrai que l'opposition était d'une manière prédilatoire, mais on doit aussi être véridique, sincère pour dire que nous aussi, nous n'avons pas pu débloquer les moyens, car il n'en manque pas. Aujourd'hui, la déclaration politique, pour aller rapidement, quelle est la nature de cette déclaration? Moi, je pense que sur le plan juridique, il n'y a pas un problème qui se pose.
Au niveau interne, il est président de la République. Au niveau international, il est chef de l'État. C'est donc normal, attendre que le numéro 1 de la nation puisse débattre des questions internationales de l'heure qui se pose dans son pays. Mais sur le plan politique, je pense que le chef de l'État savait que cette proposition verbale venant de lui créerait des problèmes. Moi, je pense que j'étais son conseiller. Je lui conseillerais de se taire et de laisser les communicateurs pris dans le futur de faire. Une question rapidement, est-ce que ces déclarations freinent les dialogues? Moi, je pense non. Lorsque dans une maison bureau, il brûle et on convient éteindre le feu avec le pétrole, la crise ne fait que s'envenimer et il faut des solutions fortes. Au contraire, ça renforce encore des dialogues pour dire que, après cette déclaration politique, il est très s'installe. Parce que ceux qui estiment que le dialogue n'aura pas lieu et ceux qui estiment qu'il n'y aura pas d'élection à l'élection décembre ont largement découvert cela avec la proposition verbale du premier chef de l'État. Alors je pense que, comme la crise s'installe, d'une part la majorité qui veut rester au pouvoir sur base de l'arrêt constitutionnel de la Cour, d'autre part l'opposition et une frange de la population qui estime qu'il faut respecter la loi parce que la démocratie telle que les prend la majorité voudrait que l'on soit respectueux des textes qu'on a pris. C'est d'ailleurs la valeur cardinale de cette démocratie que nous voulons être un jour. Alors il y a un problème qui se pose et une crise qui s'installe. D'où je pense qu'il y a un dialogue d'honneur. Dans ce dialogue, il faudra établir les responsabilités de chacun et trouver une solution. Parce que lorsque la majorité clame qu'elle doit rester au pouvoir, lorsque l'opposition fait qu'elle passe, la population gagne finalement poids. Et j'ai fini par mes propositions.
Allez-y rapidement, Omar, oui.
J'ai fini rapidement, oui. On doit respecter la Constitution. Quand cela n'est pas fait, on doit, n'est-ce pas, passer à ce qui est une solution politique. Soit les bons sens voudraient, comme le président haïtien l'a fait, comme Abdou Diouf l'a fait, comme Mandela l'a fait, qu'on puisse dire pour l'intérêt du pays et non mon intérêt, je démissionne. Ou encore, on crée une transition pendant laquelle on préparera des vraies élections.
Et là, pour vous, Omar, vous estimez qu'il y a d'abord la responsabilité, c'est le chef de l'État, vous l'avez dit, en tant que garant, il a des décisions personnelles à prendre, ou soit un consensus autour de cette question, et qu'on se dise, voilà, de quelle manière nous pouvons lever les options, aller au niveau de la transition, par exemple. On vous écoute, Pacifique, vous êtes avec nous, vous nous appelez de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bonjour, Pacifique.
Bonjour Pierrot, je salue également M. Kadima qui est avec vous là-bas. Je dis tout simplement que le président de la République, en tant que garant de la nation, a dit la vérité. C'était une vérité qu'il ne devait que le dire, parce que depuis tout ce temps, les gens disaient qu'il ne disait pas, et aujourd'hui, il l'a dit. Et en faisant cette déclaration, l'opposition doit comprendre qu'il n'y aura pas d'élection en 2016 et nous allons tout droit oubliquement et la résolution 2077 ne sera pas non plus respectée. Cela a été dit dorénavant dans la bouche du président Julien Paloukou, il y a Ngoïta Tanji, il y a Ikoko Nyangi, les montants et tout ça, ils l'ont dit. Alors, on veut mettre toute la responsabilité sur l'opposition. Non, ce n'est pas juste. La CENI prévoyait les élections présidentielles au mois de novembre, comme M. Kadima l'a dit. Est-ce que c'est l'opposition qui gère le pays qui devait prendre l'argent et donner à la CENI pendant que la CENI demandait de l'argent? Le Premier ministre nous a dit qu'il devait garder 250 millions là et dans 5 ans, il devait faire 1 500 000. Où serait cet argent-là parce qu'on dit qu'il n'avait pas d'argent. Le problème de calendrier électoral qui a été rejeté par l'opposition, ils pensent que c'était trop serré. Hein? Le calendrier était trop serré et on avait demandé que le calendrier soit un tout petit peu ventilé pour qu'on voit comment est-ce qu'on va le faire. Et même quand on a dit que les élections présidentielles devaient avoir lieu au mois de novembre, est-ce que vous voyez l'abonnement des jeunes gens qui pouvaient atteindre 18 ans? Est-ce que vous prévoyez? Non. Par contre, c'est l'opposition qui avait dit non. Nous ne pouvons pas aller dans les élections sans pour autant, parce qu'il y a des gens qui vont atteindre l'âge de la minorité, de la majorité. Et des filles, nous devons aussi les défis enrôler. Ce n'est pas la majorité, ce n'est pas une.
Mais on se rappellera quand même, oui. Oui, parce que rappelons quand même parce qu'il
y a des élections qui vont attendre de se passer, de se dérouler dans les calmes en Zambie. Et ça, c'est qui est décédé. On l'a remplacé dans 32 ans. Il y a eu des élections. Hier, il y a eu beaucoup de plus.
pourquoi chez nous il y a ce problème?
Voilà. Et quand vous regardez, parce que qu'on a débattu avec vous, ça fait une année que nous parlons autour de ces questions de responsabilité, chacun accuse l'autre. Rappelons quand même qu'en son temps, l'opposition avait réclamé l'enrôlement de nouveaux majeurs, estimant qu'il ne fallait pas. Alors, on a tendance à revenir sur ces mêmes accusations, la majorité qui accuse l'opposition, l'opposition accuse la majorité, la société civile, mais en attendant, on veut tous le respect de la Constitution, mais en réalité, on se rend compte qu'on va même au-delà de toutes les capacités nécessaires de pouvoir respecter ces délais et cette Constitution. Et en écoutant Omar tout à l'heure, Pacifique, merci d'être avec nous, Omar, lui, estime que non, c'est le dialogue qui doit permettre aux uns aux autres de pouvoir dire ce qu'on veut faire du pays, au-delà aussi des responsabilités personnelles du chef de l'État dans la résolution de la crise, comme le disait Omar tout à l'heure. On reste ici à Kinshasa pour terminer avec vous, Rachel. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour à vous, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, pour moi, mais c'est les journalistes, pour éviter toutes ces soupçons, il serait mieux que la classe politique mette l'eau dans les vins et se rencontrer pour discuter. Les dialogues est la force du peuple africain. Alors, quelle que soit la profondeur de nos divergences, on peut arriver à se mettre d'accord autour d'un idéal commun. Et moi, je reste convaincu que le peuple congolais est à finir et s'orienter vers l'avenir. Si vous permettez, M. Pierrot.
Oui.
Oui, de notre espace d'échange citoyen pour profiter de souhaiter les joyeux anniversaires à tous les auditeurs qui fêtent cela, ces jours ainsi que ce week-end, de prendre moi-même.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel, pour votre intervention. Et merci, parce que c'est le début du week-end où on estime que beaucoup de personnes fêtent. On profite pour présenter le vœu d'anniversaire à toi particulièrement qui le fête, mais aussi à d'autres auditeurs de Radio Kapi. Merci aux uns aux autres. Vous avez été très nombreux à commenter ce sujet. On revient à vous, Serge, quasiment. Comme on l'a dit tout à l'heure, depuis le début de l'émission, on accuse la majorité, on accuse l'opposition, on estime qu'on doit avoir les dialogues, mais en attendant, quand même, notre responsabilité dans le respect de cette constitution est là, sur la table. Mais Omar dit aussi qu'il y a la responsabilité aussi du chef de l'État en tant que garant des institutions, de pouvoir aussi dire ou soit poser des gestes qui puissent amener les uns et les autres à comprendre qu'on peut facilement résoudre la crise et aller de l'avant. Et vous en profitez aussi pour conclure cet échange.
Merci. Je vais quand même répondre rapidement à Maître à Adrien, qui a appelé, je crois bien, de Mbujimayi.
De Kananga, oui.
Je vais dire à Adrien ceci. Je ne sais pas, Adrien, à tous ceux qui nous suivent, et peut-être tous les autres qui ont aussi intervenu, je ne sais pas s'ils ont personnellement suivi les chefs de l'État, ou bien s'ils ont, ils se fient seulement à ce qui a été rapporté par les uns et les autres, après avoir altéré les contenus de la communication du président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila, en fait, dans notre pays, on a lancé les processus d'enrôlement le dimanche 31 juillet. Et deux jours après, le président de la République se retrouve en Ouganda. Et après les séances de travail en Ouganda, il s'est vu interrogé par les journalistes étrangers qui lui posent la question sur la santé électorale dans notre pays. Le président a répondu en ces termes, c'est en anglais, j'essaie de traduire. Le président a dit que ce n'est pas à lui, ce n'est pas au gouvernement d'organiser les élections, c'est la CENI qui est habilitée à organiser les élections. Mais au moins, il a laissé dans notre pays les processus d'enrôlement qui avaient déjà débuté, et il a même dit que comme le processus électoral, le processus d'enrôlement a débuté, il est sûr et convaincu qu'après ce processus, il y aura élection dans ce pays.
Mm-hmm.
Je ne vois pas en quoi cette réponse peut fâcher, peut énerver la constitution de notre pays. Alors, je pense que si les gens n'ont pas suivi personnellement le président Kabila, là je suis clair, maintenant ils peuvent être appuyés.
Et allez-y tout droit pour la conclusion, parce que là on n'a que 2 minutes.
Oui, pour la conclusion, je vais dire aux uns et aux autres que les questions en rapport avec les procès électoraux, il n'y a que la CENI qui est habilitée à aborder avec assurance, avec maîtrise. Nous avions tous suivi le président de la CENI sur TV5, nous l'avons suivi sur RFI, nous l'avons suivi sur Radio Kapi, sur plusieurs chaînes, Il a dit que la CENI a besoin de 15 mois plus un jour pour gagner des élections. Mes compatriotes qui disent que la responsabilité est partagée, je ne vois pas comment on pouvait donner à la CENI les moyens pour gagner des élections sans calendrier électoral. Lorsque la CENI avait publié un calendrier électoral, s'il y avait un calendrier électoral consensuel accepté par tout le monde et que le gouvernement n'avait pas mis les moyens à la disposition de la CENI, là, moi, M. Kadima de la majorité, j'allais dire que nous, au niveau de la majorité, on n'a pas la volonté, je peux vous rassurer que j'allais démissionner. Mais parce que l'opposition n'a pas permis à la CENI d'avoir un calendrier sur base desquels on devait faire les décaissements pour les procès électoraux, aujourd'hui, il n'y en a pas. Nous disons que nous devons aller au dialogue pour qu'ensemble nous puissions lever une option politique pour sauver la nation. On doit arrêter de faire des messages d'appel à l'insurrection, au soulèvement et au pillage. Parce que nous avons en commun notre pays, la patrie. C'est comme ça que j'ai dit qu'à ce jour, il n'y a pas deux voies. La seule voie qui nous reste, la seule possibilité qui nous reste, c'est accepté par tout le monde, par mes compatriotes de l'opposition de la majorité, en dehors de quelques compatriotes qui sont en train de faire le jeu de quelques personnalités du monde international. Mais pour sauver la jeune démocratie, nous devons aussi avoir le respect. De la même manière que moi, j'ai une telle voix. Lorsque j'irai voter, je vais voter justement une telle voix. Je n'ai pas deux voix, je n'ai pas 10 voix. Nous devons également respecter 10 millions de Congolais qui constituent les nouveaux majeurs. Alors, la meilleure façon de respecter, c'est de laisser aller s'enrôler. Ils disent que les calendriers de la CENI n'avaient pas prévu l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est vrai. C'est peut-être un oubli. Mais je vais vous rappeler ici que c'est la première personne qui a rappelé cela. C'est l'honorable Tessanga. Il est de l'opposition. Alors, parce qu'il a relevé cela, est-ce qu'on doit relever cela parce qu'il est de l'opposition? Nous disons qu'il est compatriote. Il a compris. Peut-être qu'il a sauvé notre pays. Vous vous souvenez-vous que les élections de 2011, nous avons eu l'enrôlement quelques mois avant. Ça permet à ce que toutes les personnes qui avaient atteint l'âge révolu et qui voulaient jouir de ses droits de vote s'étaient enrôlées. Aujourd'hui, on ne peut pas aller aux élections sans les étudiants parce que tous les étudiants...
Merci Serge Kadima. Merci beaucoup Serge Kadima de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes communicateurs de la majorité présidentielle. Vous avez été très nombreux à commenter ce sujet, mais les débats continuent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe des productions, Nico Kalambay qui a assuré le standard ainsi que la réalisation de ce magazine mis en nom de par Hippolyte Kapanga. Pierre Lamégi a eu le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Seboujango. On se retrouve le lundi à 11h30 heure de Kinshasa pour un autre débat dans Parole aux auditeurs. Bon week-end à tous, vous êtes très nombreux. Le programme sur Radio Capi le week-end, c'est aussi de la musique, des programmes, des informations et des magazines à vous couper le souffle. On se retrouve bientôt et surtout ne vous déplacez pas parce que Radio Capi, c'est beaucoup de plaisir.